18-19, le magazine.
Bonsoir, c'est Ondes Noires, l'émission pour l'art la plus rock de la bande FM.
Bonsoir Jacques.
Bonsoir Corinne.
Au sommaire de cette émission, dans la première partie, nous allons parler de 813, qui est, nous allons souffler les 30 bougies de cette importante association française qui défend les littératures policières donc depuis 30 ans. Enfin, deuxième partie, nous retrouverons avec plaisir Jean-Marc Laherrer pour son coup de cœur. Donc, en cette première partie, j'ai le plaisir d'accueillir Hervé Delouche. Hervé Delouche, bonsoir.
Bonsoir.
Merci de nous rejoindre. Vous êtes donc le président, tout juste reconduit, de l'association 813. Alors, une question toute bête, mais je pense que peu d'auditeurs connaissent 813. Pourquoi le nom de 813 pour une association défendant les littératures policières ?
Eh bien, en fait, 813, c'est le titre d'un roman de la série des aventures d'Arsène Lupin de Maurice Leblanc. Et voilà, c'était cette appellation un petit peu énigmatique que les fondateurs de 813 lui ont choisi, les aventures en plus d'Arsène Lupin étant l'œuvre d'un écrivain français. Donc voilà, il y avait, et puis ça poussait effectivement à ce que les gens rencontrés au fil des ans posent régulièrement cette question, ce qui est une bonne manière, c'est une bonne accroche.
C'est une très bonne accroche, oui. Donc cette association a 30 ans. À l'origine, elle regroupait plutôt, on va dire, des amateurs très éclairés, voire des gens qui travaillaient autour de la littérature policière quand même à cette époque.
Oui, parce qu'elle est créée en fait en 1980 dans la foulée du premier festival qu'il y a eu en France de romans et de films policiers qui avait lieu à Reims à l'époque. Et ce sont à l'époque Jacques Baudou, les écrivains Alain de Mouzon, Michel Lebrun, Jean Vautrin et puis François Guérif, qui dirige actuellement et depuis de nombreuses années Rivage, Thriller et Noir, et puis Pierre Lebedel qui ont eu l'idée de cette association dans un paysage qui n'avait rien à voir avec aujourd'hui, puisque pour aller très vite, le polar à l'époque était un genre qui était ou ignoré ou méprisé ou en tout cas considéré comme seconde zone, c'est-à-dire en aucun cas une littérature à part entière. Voilà, donc il fallait défendre des couleurs et voilà, comme vous le savez bien, le paysage a changé en 30 ans.
Le paysage a changé, certes, mais il faut continuer quand même à promouvoir ce genre littéraire parce que de temps en temps, il est quand même un petit peu oublié de certains médias, on va dire, plus parisiens et officiels. Mais ceci dit, c'est vrai que
il est au rendez-vous des rayons des libraires, puisque le rayon roman policier est en général important, si ce n'est même parfois dominant par rapport à d'autres rayons dans des librairies ou dans des FNAC. Il est évidemment très important aujourd'hui en termes de lectorat, toute tendance de ce qu'on appelle les littératures policières confondues. Mais en même temps, vous avez tout à fait raison, parce qu'une émission, et ça n'enlève rien à l'intérêt qu'on peut y prendre en l'écoutant le dimanche soir, mais une très célèbre émission qui commence, je crois, à 20h10 sur France Inter,
La moitié du titre rappellerait une édition polar des plus anciennes.
Oui, il y avait pourtant un élément polar dans l'appellation de cette émission, mais sauf exception vraiment absolument incroyable, genre peut-être le succès de Millennium, jamais cette émission n'évoque un un titre du polar, du roman noir, ça n'est absolument jamais le cas. Et puis il est vrai que, étonnamment, dans un mouvement un peu inversé, alors que le polar, tout le monde en parle, effectivement, que
tout le monde en lit,
c'est vraiment un des secteurs dans lesquels l'édition est la plus productrice et qui a le plus de lecteurs, je crois, autant la portion journalistique et critique qui y est consacrée, c'est notoirement réduite.
Totalement.
D'où effectivement l'importance de tous les nouveaux médias, de toutes les émissions, et la vôtre évidemment, et de tous les sites internet, blogs, revues, papier qui existent et qui font vivre le polar, parallèlement à tous les salons, festivals, initiatives qui existent dans l'Hexagone.
Tout à fait. Donc l'association 813, c'est plus, je disais, la plus grande association, parce que donc 30 ans, je pense, une des plus anciennes, je pense la plus ancienne. Aussi,
oui.
Si je ne m'abuse, on flirte avec les 700-750 membres, plutôt 700, je crois. Enfin, il y a vraiment beaucoup d'adhérents.
Il y a quelque chose d'assez intéressant qui s'est dit lors de l'assemblée qu'on a tenue ce dimanche, c'est que il y a eu ces dernières années un renouvellement très très net de l'association, ce qui est aussi une des raisons qui encourage à la poursuivre, parce que ça n'est pas une association de gens qui simplement vieillirait avec l'association, ce qui annoncerait sinon forcément, et même biologiquement, un jour, une mort certaine.
Voire une érosion, on va dire érosion.
Il y a un intérêt, y compris nouveau, pour cette association, ce qui a tendance à faire penser qu'elle occupe en tout cas une place qui a des raisons d'être là dans le paysage aujourd'hui, disons.
Alors, elle a plein de réserves d'être là, puisqu'elle s'occupe, elle a beaucoup d'activités. Donc, on ne va pas pouvoir parler de toutes les activités, mais je voudrais qu'on dise un mot. Il y a une revue 3 à 4 fois par an, une revue de fond, entre guillemets, c'est-à-dire qui aborde des thèmes importants, en particulier ce dernier numéro. Donc, quelques mots sur la revue ?
Oui, la revue, elle a au départ, quand 813 a été créée, la revue, elle c'était tirée à la Renéo, comme de nombre de fanzines, et puis elle a subi de nombreuses mutations, elle a été et l'idée était que la revue, et c'était normal au début d'une association, elle était plutôt un bulletin de liaison entre ses membres, et puis elle est devenue un outil de référence, comme l'on dit, elle multiplie les... Elle ne colle pas à l'actualité parce que c'est impossible, mais elle multiplie par contre les dossiers thématiques,
les numéros spéciaux, par exemple.
Les interviews d'écrivains qui français, étrangers, et puis jusqu'à ce dernier numéro dont vous parliez, qu'on a titré nos 100 polars préférés, et qui, à partir d'une espèce de vote, enfin de choix des adhérents de 813 sur les livres qu'ils préféraient depuis que le polar, que les littératures policières existent, on choisit 100 titres, et ça a donné un numéro qui est fait par des adhérents ou par des gens extérieurs à l'association, des passionnés comme des écrivains, comme des traducteurs, et qui commence avec Nada de Jean-Patrick Manchette et le couperet de Donald Westlake, et puis on découvre 100 romans qui ont été considérés comme les plus marquants.
C'est un très très beau panorama, effectivement, du roman noir depuis Bon, on va pas polémiquer, on va pas encore parler de la naissance du roman noir, 19... enfin bon.
Ah,
mais c'est vrai que de la moisson Gardon rouge de Dashiell Hammett, aux dernières années avec James Lee Burke, aux États-Unis et James Ellroy, ou en France avec Marcus Malt et Jean-Hugo Pell, on a vraiment un beau panorama et je pense que c'est vraiment une revue qui va devenir un ouvrage de référence. Je pense que la plupart des bibliothèques.
Il y a quelque chose qui est plaisant à ce sujet, c'est que d'abord, on a vu ça dans les derniers festivals, salons, les gens qui l'ont en main se disent « Ah tiens, voilà tel... Ah ben ça, alors ce livre-là, je connais pas du tout, cet auteur, je ne connais pas du tout, ça donne envie. » Et puis, ça a permis de... On a des demandes de commandes de libraires à qui des clients en ont parlé. Ça n'est pas un mouvement de masse hein, quand même, soyons raisonnables, mais ça fait plaisir de que des libraires, y compris des libraires qui connaissent très bien le polar, comme Entre deux noirs de Christophe Dupuis, ou dans un autre coin de France, La Talente, à Nantes, demandent des numéros parce qu'ils pensent que ce numéro a une utilité. Ce qui est notre volonté, c'est d'être la volonté de 813 aujourd'hui, comme ça correspond d'ailleurs à la volonté du départ, c'est d'être utile à tous ceux qui ont besoin ou d'aide, de conseils, il y a un côté fédérateur et passeur qui est à mon avis le rôle d'une association comme celle-là aujourd'hui.
Le mot passeur est très important. Deuxième
passeur et passion.
Passeur et passion, oui.
Passeur et passion, tout à fait, Jacques.
Donc on va passer au trophée. Alors on va annoncer samedi dernier, ont été annoncés les trophées 813 qui récompensent le meilleur roman francophone, le meilleur roman étranger ainsi que le meilleur ou la meilleure traductrice et la meilleure contribution à ce genre. Mais un mot sur la façon dont les gens votent, dont le vote est effectué, pardon, pour être plus précise.
Alors les trophées, ça fait selon le mot qu'a eu Dominique Manotti, qui est la lauréate pour cette année avec bien connue des services de police à la série noire, c'est que elle était ravie parce qu'elle trouve que ce prix, c'est un prix de lecteur, c'est-à-dire que ce sont les adhérents de 813 qui le veulent évidemment, qui
on leur met pas le couteau sur la gorge quand même.
Voilà, et donc au premier tour, eh bien, dans chacune des catégories que vous avez citées, ils votent pour les livres, enfin ils donnent une petite liste de 5 livres qui ont été pour eux les meilleurs, et puis après tout ça se resserre et il y a dans chaque catégorie les 5 arrivés en tête qui restent pour le deuxième tour en concurrence. Et ça donne ma foi, je pense, cette année. Alors évidemment, on peut toujours regretter ou pas. Enfin,
selon les goûts de chacun, il y a des regrets, certes. Et puis de toute façon, il n'y a pas qu'un seul très bon roman noir français ni très bon roman noir étranger qui est sorti cette année. Mais n'empêche que ça nous donne vraiment... trois beaux romans qui sont quand même, en plus je trouve, pardon, deux très beaux romans et une contribution qui offre vraiment, je dirais, une ouverture d'esprit sur le polar parce que c'est deux romans très différents. Le roman français, vous l'avez dit, c'est Dominique Manotti avec Bien connu des services de police. Le roman étranger à la série noire, pardon, Gallimard. Je vous laisse annoncer le titre du roman étranger, du meilleur roman étranger.
Alors, le roman étranger, c'est Le Camp des Morts de Craig Johnson, aux jeunes éditions Gallmeister,
dont
je crois que à Onde Noire vous pensez le plus grand bien.
Oui, puisque nous avions eu Oliver Gallmeister il y a déjà pas mal de temps, à l'époque où il était beaucoup moins connu. Et enfin, la meilleure contribution, alors là, on est très fiers parce qu'on a carrément eu une des deux lauréates en interview il y a quelques mois. Je vous laisse annoncer le nom. Ce sera plus facile parce que.
Stéphanie Delestrée et Agathe Santi pour leur dictionnaire des personnages populaires de la littérature des 19e et 20e. Et puis, à côté d'eux, la centaine d'écrivains qui a participé à ce livre qui est une référence incontournable et puis un vrai plaisir de lecture. Un très beau cadeau à faire pour les fêtes.
Voilà, pour les fêtes, c'est...
Et puis voilà, et effectivement, au vu de ce palmarès, je pense qu'on peut être très content parce que ce sont vraiment des bons ouvrages, tout cela.
C'est des très beaux ouvrages. Donc justement, on en reparlera quand même pour les fêtes de Noël. Et puis, bien, le temps passe. Donc, pour adhérer à l'association, il y a un site. Il suffit de taper 813, de googler, comme on dit, ou de googliser, comme on dit, en mettant 813, on tombe sur un site et on a toutes les conditions d'adhésion, un cadeau, les revues, plein de moments conviviaux dans les festivals. J'avance un petit peu parce que vous avez choisi le morceau de musique qui va venir avant notre pause et j'aimerais que vous nous présentiez le morceau que vous avez choisi, s'il vous plaît.
Oui, alors, excusez ma prononciation, le morceau c'est Me and Bobby McGee, qui est, je crois, un morceau écrit par Chris Christopherson, mais je pense que il est là dans la version de Janis Joplin.
Tout à fait.
Bien, disons que personnellement, quand j'ai entendu ce morceau par cet interprète la première fois dans les années 70, ça a été un vrai bouleversement. Et puis, j'y vois un certain rapport avec le roman noir, cette chanson qui commence par, je crois, un peu en français, si on traduit, dans la dèche à bâton rouge, attendant un train, je me sens presque aussi délavé que mes jeans. Et puis, il y a évidemment l'interprète qui est Janis Joplin, qui a été une interprète absolument extraordinaire, bouleversante, une chanteuse vraiment magnifique, quoi, et qui est décédée très tôt, à 27 ans, et qui est restée, je pense, un mythe du rock, de la chanson. Et il y a à voir, voilà, dans cette chanson, on peut être bouleversé comme en lisant un David Goodis, par exemple.
Ouais, moi, je pense à Daniel Oudrel, vous voyez.
Parfait. Plus près de nous, on est, voilà, je partage. On peut associer les deux. Oui.
Hervé Delouche, merci beaucoup. Et
merci,
on s'écoute Janis Joplin. Bonsoir.
Bonsoir.
Baton Rouge, waiting for a train, when I was feeling near as faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained, then rode us all the way into New Orleans. I pulled my harpoon out of my dirty red bandana. I was playing soft while Bobby sang the blues. Windshield wiper slapping time, I was holding Bobby's hand in mine. We sang every song that Javi knew. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, I mean nothing, honey, if it ain't free. For me and my Bobby McGee. From the Kentucky coal mine to the California sun, hey, Bobby shared the secrets of my soul. Through all kinds of weather, through everything we've done, your Bobby, baby, kept me from the cold.
Sur Agora FM, bon début de soirée. Tout de suite, l'information régionale vous est développée.